1h49.
Chapitre 79. La prairie.
Examiner les lignes de sa face ou tâter les bosses du crâne de ce Léviathan, voilà ce que nul physionomiste, nul préniologiste n'a encore entrepris. Une telle étude pourrait sembler presque aussi riche de promesses que l'eût été celle de Lavater, scrutant les rides du rocher de Gibraltar, ou celle de Gall palpant le dôme du Panthéon monté sur une échelle. Pourtant, Lavater, dans son ouvrage célèbre, traite non seulement de la diversité des visages humains, mais il étudie aussi attentivement les faces des chevaux, des oiseaux, des serpents et des poissons, et commente en détail les modifications de l'expression qu'on y discerne. Gall, ainsi que son disciple Spurzheim, n'ont pas manqué de lancer quelques idées concernant les caractéristiques phrénologiques d'autres espèces que l'homme. Aussi, bien que je n'ai aucun titre à jouer les pionniers dans ce domaine, je voudrais tenter de procéder à une application de ces deux demi-sciences aux cétacés. Je fais essai de tout et achève ce que je puis. Du point de vue physionomique, le cachalot est une créature anormale. Il n'a point de nez à proprement parler, et comme le nez est le trait central d'un visage de tous, le plus notable, que c'est celui qui le modifie peut-être le plus et commande sa valeur expressive générale, il semblerait que l'absence totale de cet appendice externe doive affecter sensiblement l'aspect de la baleine. De même que dans un jardin paysager, on jugera la présence d'une flèche, d'une coupole, d'un monument ou d'une tour quasi indispensable à la perfection du tableau. De même, nul visage ne sera physionomiquement harmonieux s'il lui manque le haut beffroi ajouré du nez. Brisez le nez du Jupiter de marbre de Phidias et il ne reste qu'une ruine lamentable. Néanmoins, le Léviathan possède une si formidable stature et de si majestueuses proportions que cette même carence qui rendrait hideuse la statue de Jupiter n'est chez lui rien moins qu'un défaut. Tout au contraire, elle lui confère un surcroît de grandeur. Un nez sur la face de la baleine serait une impertinence. Tandis que vous accomplissez dans votre voyou cette circumnavigation physionomique autour de sa tête immense, jamais la noblesse que vous lui prêtez n'est entamée par l'idée que la créature a un nez qu'on pourrait pincer. Pensée répugnante qui s'insinue si souvent en chacun de nous, même au spectacle du plus puissant huissier royal assis sur son trône. À certains égards, la vue physionomique la plus imposante du cachalot est celle qu'on obtient en le contemplant de face. Ce panorama est sublime. Un beau front humain absorbé dans ses pensées est pareil à l'Orient troublé par le lever du jour. Dans le calme de la pâture, le front bouclé du taureau a quelque chose de grandiose. Et il y a de la majesté dans le front de l'éléphant qui tire de lourds canons dans les défilés de montagne. Humain ou animal, ce front merveilleux est semblable au grand sceau d'or que les empereurs du Saint-Empire apposaient sur leurs décrets. Il signifie « Dieu fait ce jour de ma main ». Mais chez la plupart des êtres, chez l'homme lui-même, le front n'est très souvent qu'une bande de terre alpine qui court le long de la ligne des neiges. Peu nombreux sont les fronts qui, tel celui de Shakespeare ou Mélenchon, s'élèvent si haut et descendent si bas que les yeux apparaissent alors comme des lacs de montagne aux eaux claires. éternelles, immobiles, au-dessus desquelles on croit pouvoir suivre dans les rides, comme des andouillères, les pensées descendues des hauteurs pour y boire, à la façon dont les chasseurs des hautes terres d'Écosse suivent les traces des cerfs dans la neige. Mais chez le grand cachalot, cette altière et puissante dignité dont le front porte l'empreinte quasi divine est si considérablement amplifiée que l'on éprouve en le contemplant ainsi de face bien plus intensément que devant n'importe quel autre objet naturel vivant, la présence du Dieu et des forces les plus redoutables. Car on ne voit là rien en particulier, aucun trait distinct ne se montre, point de nez, ni d'yeux, ni d'oreilles, ni de bouche, nulle face, il n'y en a pas, à proprement parler, rien d'autre que le vaste firmament du front, sillonné d'énigmes, dont la mise à la mer est une muette menace de perdition pour les canots, les navires et les équipages. Vu de profil, la grandeur de ce front étonnant n'est en rien diminuée, bien qu'elle soit alors moins impressionnante. Sous cet angle, on aperçoit clairement la dépression horizontale en demi-lune qui est chez l'homme, selon l'avatar, la marque du génie. Quoi ? Du génie chez le cachalot ? Le cachalot a-t-il jamais écrit un livre, prononcé un discours ? Non, son génie consiste précisément en ce qu'il ne fait rien pour le prouver. Il se proclame en outre dans son silence pyramidal. À ce propos, je crois bien que si le cachalot avait été connu des peuples du Jeune Orient, il eût été défié par leur candide magisme. Ces hommes accordèrent la divinité au crocodile du Nil parce que le crocodile n'a pas de langue. Or, le cachalot en est dépourvu, ou du moins sa langue est-elle si menue qu'elle est incapable de distension. Si jamais, à l'avenir, une nation poétique et de haute culture devait rétablir dans leurs droits d'aînesse les joyeux dieux du jour de mai, des temps jadis, et leur redonner un trône et une vie dans un ciel aujourd'hui égoïste, égotiste, sur cette colline où nulle présence ne se fait plus sentir, alors soyez rassurés que le cachalot, élevé jusqu'au siège de Jupiter, en sera le seigneur. Champollion a déchiffré les rides des hiéroglyphes granitiques, mais il n'existe pas de Champollion pour déchiffrer l'Égypte du visage des hommes, du visage de tous les êtres. La physionomie, comme toutes les autres sciences humaines, n'est qu'une fable éphémère. Si donc Sir William Jones, qui comprenait 30 langues, était incapable de saisir les profondeurs et les subtilités d'expression du plus frustre visage de paysan, comment l'inculte Ismaël pourrait-il espérer traduire en clair le terrible front chaldéen du cachalot ? Je le mets sous vos yeux, lisez-le si vous le pouvez.